Radio Kapi.
Le chef de l'État au chevet des sinistrés de l'éruption du volcan Niragongo dans le Nord Kivu. Il a visité Niragongo ce lundi, estimé à 6000 personnes et cantonné dans une école. Ces familles doivent être délocalisées dans deux sites prévus par un plan de contingence. Le chef de l'État annonce par ailleurs la nomination des nouveaux animateurs de la structure désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Il s'agit d'accélérer ce processus qui n'a pas donné des avancées escomptées jusqu'ici. Le Sud Kivu compte 15 000 donneurs bénévoles de sang, pas du tout suffisant pour faire face à toutes les demandes dans la province. Révélation du président de l'amicale des donneurs bénévoles de sang, le docteur Miyanga Serge, lance un appel aux dons en ce jour dédié aux dons bénévoles de sang. Et puis, depuis la déclaration de l'état de siège dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, un flou s'observe dans l'avancement des dossiers judiciaires des prévenus. Pour en parler, nous recevons Angelus Kavutiroaki, rapporteur de la société civile de Beni. Madame, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État poursuit son séjour dans le Nord Kivu. Ce lundi, il a visité la zone affectée par l'éruption volcanique du 22 mai dernier en territoire de Niragongo, une dizaine de kilomètres au nord de Goma. Sur place, accompagné des experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, Félix-Antoine Tshisekedi s'est successivement imprégné des dégâts causés par la coulée des laves sur les habitations ensevelies dans le groupement Munigi, ainsi que la route coupée par la coulée des laves dans le village Kanyanja, groupement qui bâtit. Le chef de l'État a aussi visité le projet d'érection d'un hôpital militaire mobile, projet financé par le gouvernement congolais à Kanyaruchinya pour répondre aux besoins d'urgence des populations sinistrées de Niragongo. Il a aussi visité les familles dont les maisons avaient été ensevelies par la coulée des laves. Ces familles estimées à 6000 personnes, selon les sources locales, sont jusque-là cantonnées dans l'école primaire Kaembe dans le groupement de Munigi. Par ailleurs, le chef de l'État annonce la nomination dès la semaine prochaine des nouveaux animateurs de la structure DDRCS, entendez, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit lors de la conférence de presse qu'il a animée hier à Goma, où il séjourne depuis samedi soir. Il réagissait ainsi au sujet de la problématique de ce processus qui ne semble pas avoir des avancées escomptées en province. En effet, des centaines de miliciens qui s'étaient rendus dans quelques centres de cantonnement ont regagné la brousse faute de prise en charge adéquate. Félix-Antoine Tshisekedi déplore cette situation, mais s'est dit confiant dans l'aboutissement heureux de ce processus. Le chef de l'État, dans ses propos recueillis par Denise Lukeso.
Ça, c'est un problème que je déplore toujours, mais soyez tranquille, là aussi, il y a des solutions. Très bientôt, je pense la semaine prochaine, je vais désigner les animateurs du processus DDRCS, démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, dans le but justement d'encourager ces redditions et surtout de prendre en charge ces jeunes gens qui vont quitter ces groupes armés et les préparer à une nouvelle vie en communauté. Donc cette fois, il y a du concret et j'aimerais aussi saluer au passage le soutien de la Banque mondiale qui a très vite volé à notre secours en nous apportant 50 millions déjà pour commencer dans la cagnotte de ce processus DDRCS. Et j'ai bon espoir que c'est un processus qui marchera parce que cette fois-ci, le but est vraiment de prendre en charge ces miliciens du début jusqu'au moment où ils vont retourner complètement transformés dans leur communauté.
Je vous le disais en titre, la province du Sud Kivu compte 15 000 donneurs bénévoles de sang. Ce n'est pas assez pour faire face à toutes les demandes de sang, indique le président de la MIDOSA, amicale des donneurs bénévoles de sang. Ainsi, le docteur Miyanga Serge, président de l'amicale des donneurs bénévoles de sang au Sud Kivu, lance un appel aux dons et rappelle l'importance de donner régulièrement du sang, appel lancé à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs bénévoles de sang, journée célébrée le 14 juin de chaque année. À propos du docteur Serge Miyanga, recueilli par Cynthia Bachizi.
Il y a des situations dans lesquelles, sans le sang, on ne peut pas sauver une vie humaine. Il y a plusieurs différents types d'anémie qui nécessitent qu'on donne du sang pour essayer de sauver une vie humaine. La situation des donneurs dans la province du Sud Kivu n'est pas très brillantes comme par le passé. Et nous avons pu mettre sur pied une soixantaine d'associations éparpillées dans toute la province. Et ces associations, nous étions arrivés à avoir à peu près 15 000 donneurs bénévoles de sang. Ce n'est pas facile comme par le passé, parce que dans le don de sang, il y a beaucoup de choses qui se racontent, qui ne sont pas vraies. Il y a ce qu'on peut appeler la peur de l'inconnu. Je ne sais pas, si on me prélève du sang, je serai obligé de venir tous les jours pour venir donner du sang, parce que l'organisme a toujours sa façon à lui d'équilibrer les choses. Non, je suis déjà très près de telle maladie. J'ai 74 ans aujourd'hui. J'ai donné du sang pendant plus de 40 ans. Donc, je suis en bonne santé.
Au Nord Kivu voisin, entre-temps, moins de 50% des besoins en dons de sang sont couverts au centre de transfusion sanguine de Butembo, qui couvre cette ville et ses environs. Le docteur Amissi Emmanuel, médecin responsable de ce centre, l'a fait savoir hier à Radio Capi, en marge justement de la journée mondiale de dons bénévoles de sang. Il indique que plusieurs raisons sont à la base de cette situation, notamment la réticence des donneurs de sang depuis le début des épidémies d'Ebola et de la pandémie de Covid-19, mais aussi le prélèvement local de sang par des structures sanitaires. Le docteur Amissi Emmanuel explique au micro de Florida Kahambu.
D'abord, pour l'année 2020, la couverture en besoin était de 36,8% et de janvier de cette année jusqu'au mois de mai, nous sommes à 41,6% de transfusions sécurisées. Nous avons au moins 10 zones de santé. Dans ces 10 zones de santé, il y a 17 banques de sang qui viennent s'approvisionner ici au plateau technique de Butembo. Les raisons par rapport à la diminution, premièrement, c'est la présence de deux épidémies, Ebola, Covid-19, la population qui continue à résister, à venir faire les dons de sang. Il y a d'autres structures qui continuent à prélever localement avec tous les risques possibles de transmettre les maladies. Notre objectif est de collecter 6000 dons par an, donc par mois. Nous devons distribuer au minimum 630 poches de sang. Mais nous arrivons à 500 dons par mois. Le besoin en sang est encore énorme. Que la population s'implique de cette activité de dans des salles.
Célébration hier à Lubumbashi de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cela a coïncidé avec la deuxième édition de Tous Pareils, un programme de l'Organisation pour le bien-être des albinos au Congo. Cette journée était placée sous le thème « Luttons ensemble contre le cancer de la peau ». À cette occasion, les albinos ont plaidé pour leur prise en charge par l'État congolais. Des détails avec Jean Gando.
D'après le président de l'Association pour le bien-être des albinos au Congo, le cancer est la première cause de mortalité chez les albinos. Tous les cris lancés vers les autorités pour leur prise en charge sont restés lettres mortes. Simon Pierre Kalenga, président de l'OBEAC.
Il faudrait vraiment que les albinos puissent trouver vie sauve à ce qui concerne les cancers de la peau. Nous cherchons la crème solaire pour lutter contre les cancers des peaux. Plusieurs fois, nous avions entamé les démarches, mais malheureusement.
À côté de leur prise en charge, les albinos sont confrontés à plusieurs difficultés dont le rejet tant en famille que dans la société, souligne leur président. Pour Simon Pierre Kalenga, les albinos ont du mal à se faire engager dans les entreprises tant publiques que privées. Ce qui ne se justifie pas. Pourtant, indique-t-il, ils jouissent de même droit que tout le monde. En outre, ils sont victimes de fausses croyances distillées dans l'opinion comme quoi ils seraient détenteurs d'un pouvoir mystique. Parmi les recommandations faites aux autorités, c'est une fois de plus de mettre à leur disposition des crèmes pour leur peau, ce qui les épargnerait du cancer de la peau. Pour terminer, il a aussi demandé aux autres albinos de s'intégrer dans la société, car tous nous sommes pareils. Présent à cette rencontre, le docteur Kialika, dermatologue de son état, a indiqué que localement, il est difficile de sauver les albinos qui se présentent avec un cancer de peau à un stade avancé. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Troisième vague de coronavirus en RDC. Plus d'une dizaine de nouveaux cas enregistrés depuis la semaine dernière dans le sud Ubangi, particulièrement dans la ville de Gemena, et la province compte à ce jour plus de 25 cas positifs. La situation préoccupe au plus haut point le gouvernement provincial qui a annoncé un train de mesures, entre autres le renforcement de la sensibilisation et l'organisation bientôt de la vaccination. D'autres détails avec Paul-Richard Malengela.
C'est une montée spectaculaire et inhabituelle des cas de COVID-19 COVID-19 que le Sud-Ubangi vient de connaître la semaine dernière, a estimé le ministre provincial de la Santé. Rien que dans la ville de Guémena, il y a eu jour après jour plus de 14 nouveaux cas. Les résultats d'autres échantillons sont encore attendus, ce qui a fait un cumul de 25 nouveaux cas depuis la survenue de la troisième vague. Elle touche particulièrement Guémena ville puis territoire, ainsi que la cité de Libengué. Et le ministre provincial de la Santé, Malachi Adugia, explique cette recrudescence par la négligence des gestes barrières et l'afflux de voyageurs.
Nous sommes en contact avec Kinshasa chaque mercredi et chaque samedi. Il y a des vols réguliers, mais aussi la proximité de notre province avec la ville de Bangui, à partir de notre ville de Zongo, et y compris aussi notre frontière avec les Congo-Brazzaville. C'est au quotidien, mais à l'intérieur, on n'observe pas les gestes barrières. C'est comme ça qu'on a constaté avec l'arrivée de la troisième vague des cas de Covid dans la ville.
Le comité provincial de riposte, déjà à pied d'œuvre, a pris certaines dispositions, parmi lesquelles le renforcement de la sensibilisation et du couvre-feu, ainsi que la vaccination du personnel soignant, des vulnérables et des volontaires. Notons que pour cette vaccination anti-Covid-19 bientôt dans le sud d'Ubangui, le comité provincial de riposte vient de commander 1000 doses. Bandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Direction le Kasaï oriental. Un mort, trois blessés graves et trois personnes arrêtées. Bilan des manifestations organisées ce lundi par les étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM Boujimaï. Les étudiants s'insurgent contre la non-tenue de la mi-session par les enseignants. Ces derniers réclament auprès des autorités académiques la paie des salaires de 3 mois, ainsi que la bonne répartition des frais de participation à la mi-session. Selon plusieurs témoins, un étudiant des sciences infirmières a trouvé la mort. Une équipe d'étudiants a circulé avec la dépouille du disparu pour l'exposer au domicile du directeur général. Esther Dalafina, reportage.
Des centaines d'étudiants étaient ce lundi matin jusqu'à la mi-journée sur le boulevard Mzé Laurent Désiré Kabila au niveau de la mairie de Mbujimaï et devant leur institution académique. Ils ont tenté de perturber la circulation mais ont vite été dispersés par les policiers à coups de gaz lacrymogène. Dans cette altercation, un policier a été blessé, 2 étudiants ont été arrêtés par les policiers. Un étudiant membre du groupe qui a rencontré l'autorité urbaine pour solliciter la libération de leurs collègues a été aussi molesté et jeté au cachot. La situation a dégénéré. Selon plusieurs témoins, un étudiant des sciences infirmières a trouvé la mort. Une équipe d'étudiants circule avec la dépouille mortelle sur les artères avec objectif de l'exposer au domicile du directeur général. Signalons que le malaise à l'ISTEM a débuté la semaine dernière entre les directeurs généraux et les enseignants. Ces derniers réclament leur prime de 3 mois ainsi que la bonne répartition des frais de participation à la mi-session payés par les étudiants. Certains étudiants affirment que l'effectif avancé par le DG n'a pas reflété le nombre réel des étudiants. Toutes nos tentatives pour joindre les autorités académiques de l'ISTEM se sont avérées vaines. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Et au Kasaï central, ce sont les jeunes du mouvement Maintenant ou Jamais qui s'opposent à l'annulation par le gouverneur intérimaire des désignations opérées dans le secteur de la santé par le ministre provincial des tutelles. Ils ont organisé ce week-end à Kananga une marche pour demander à Tarsis Kabatusuila de revoir sa décision. Dans cette décision, l'autorité provinciale indique que toutes les désignations anarchiques doivent être déconsidérées. François Kadima nous en parle.
Cette marche organisée à Kananga par le groupe des jeunes du mouvement Maintenant ou Jamais s'est soldé par le dépôt d'un mémorandum à l'Assemblée provinciale. Ils estiment que ces désignations opérées il y a quelques mois ne pouvaient pas être attaquées parce que le délai est largement dépassé.
S'il fallait attaquer ces désignations en flagrance, c'est dans les 70 heures. Or, ces désignations ont déjà dépassé la durée juridique. Donc, ces prestataires ou ces travailleurs sont reconnus officiellement, ils ont travaillé.
Après avoir décidé d'annuler ces désignations effectuées dans le secteur de la santé, le gouverneur intérimaire a indiqué vouloir que les normes soient respectées. Selon Tarsis Kabatusuila, la situation sera examinée au cas par cas pour une bonne réaffectation des prestataires de santé.
L'annulation, ça ne met pas à l'aise, mais je voudrais que les choses soient réglementées de manière logique. Nous allons examiner cas par cas pour qu'on puisse réglementer de sorte à réaffecter les gens de bonne manière conformément à la loi et non en dehors de la loi.
Dans sa lettre datée du 5 juin adressée à la chef des divisions provinciales de la santé, le gouverneur intérimaire du Kasaï central a indiqué que ces mises en place violent non seulement la constitution mais aussi le principe fondamental relatif à la libre administration des provinces. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes en Guinée équatoriale. Un officier et un soldat sont jugés pour homicide par négligence dans les explosions dans un camp militaire, accident qui avait tué 107 personnes et fait 615 blessés en mars dernier dans la capitale économique Bata, a annoncé le parquet sur la radio-télévision d'État. Nous requérons la peine de 70 ans de prison contre l'accusé José Antonio Obama Nsue et 30 ans contre le lieutenant-colonel Valentin Zhang Ega, a énoncé le magistrat. La réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN a débuté aujourd'hui à Bruxelles, au siège de l'organisation. Ce sommet est une occasion de symboliser les retrouvailles transatlantiques avec la présence du président américain Joe Biden. Cela après 4 années difficiles face à Donald Trump qui avait qualifié l'Alliance atlantique d'obsolète.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, un flou s'observe dans l'avancement des dossiers judiciaires des prévenus depuis la déclaration de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Quelle perception pour la société civile de Beni et comment pallier cette situation? Réponse avec notre invité, Angelus Kavutiroaki, rapporteur de la société civile de Beni. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Angelus Kavutiroaki, bonjour.
Bonjour.
La société civile alerte sur les conditions carcérales déjà des détenus dont les dossiers étaient instruits par les juridictions civiles et la cour militaire, mais sans suite. C'est quoi vraiment le vrai constat qui a été fait depuis tout ce temps?
Oui, nous avons constaté que les personnes dont leurs dossiers étaient en instruction au niveau des juridictions civiles, tant qu'au niveau de la cour opérationnelle du Nord Kivu, étaient restées pendues depuis le 6 mai, puisque depuis la déclaration de l'état de siège par les chefs de l'État, on a demandé à tous les justiciables devant les juridictions civiles de surseoir l'instruction de ces dossiers. Et les dossiers maintenant qui avaient des prévenus au niveau de la prison sont restés ainsi jusqu'aujourd'hui. Donc là, les détenus sont là, ne sont même pas fixés sur leur sort. On ne sait pas s'ils seront acquittés ou s'ils seront condamnés. Et ceux qui seront condamnés ne savent même pas ce qui peut leur arriver. C'est sur ce sujet de difficultés que traversent les personnes arrêtées dans le Nord et l'Ituri. C'est ça le sérieux problème que nous avons constaté dans les milieux carcérales. En cela s'ajoutent les personnes qui auraient été arrêtées par la cour opérationnelle du Nord Kivu, qui sont dans des prisons à Goma, à Kinshasa, ainsi de suite. Tous ces gens-là ne sont pas fixés sur leur sort. On ne sait pas si les dossiers seront déférés au niveau de la cour ordinaire, ou bien les dossiers seront transférés au niveau des garnisons. C'est ça le grand problème que traverse la population, les personnes arrêtées à ce moment. Et les familles s'inquiètent des sorts de leurs membres de famille. Même les conseils n'ont plus accès aux dossiers de leurs clients qui sont en détention. C'est ce qui a poussé la société civile à lancer cette alerte pour que les autorités, ayant la justice entre leurs mains, puissent prendre des dispositions utiles.
Cette histoire peut avoir quel type de conséquences directes sur le système juridictionnel?
Oui, vous savez que lorsque l'état de siège a été institué, il y a eu des règles qu'on devrait suivre. Donc on devrait respecter les droits d'une personne à la justice. Donc il avait droit d'accéder à une justice équitable, même les droits de recours. Fort malheureusement, même la juridiction qui était destinée à statuer de leurs dossiers est là, mais les dossiers ne sont pas là. Donc les dossiers restent toujours entre les mains des juridictions civiles. Les dossiers ne sont jamais transférés au niveau du tribunal militaire des garnisons et au niveau même de l'auditorat. Donc les dossiers restent toujours comme ça et les prisonniers continuent à souffrir. Puisqu'ils ont droit, c'est un droit d'être informé sur son sort. Si on est acquitté ou si on sera condamné, on a ce droit d'être informé, d'être fixé. C'est ce que nous déplorons. Et c'est que nous demandons qu'on puisse voir des mesures le plus tôt possible pour que les gens soient fixés de leur dossier.
Alors avec l'état de siège, vous pensez, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour décanter cette situation?
La première chose, il fallait que les autorités puissent prendre les décisions de transférer les dossiers avec prévenus au niveau des juridictions qui sont opérationnelles actuellement. Les dossiers civils qui sont au niveau des parquets civils soient transférés au niveau de l'auditorat et les dossiers qui sont en instruction au niveau du tribunal civil soient transférés au niveau du tribunal militaire. Mais Par rapport au transfèrement, il faut que les autorités puissent avoir une décision leur demandant de transférer de tels dossiers. Il est vrai, il est évident qu'aujourd'hui, on est en train de se saisir l'office des civils qui commettent des infractions en matière pénale. C'est l'office, c'est ce qui se fait aujourd'hui au niveau des juridictions militaires. Malheureusement, pour les dossiers qu'on avait déjà instruits en Valais, mais c'est là qu'il y a des problèmes. Si on pouvait voir comment on peut décander ces situations, ça serait une bonne chose. Et c'est ça l'écrit même des prisonniers, c'est ça l'écrit de tout le monde. Nous sommes en train de recevoir des appels par-ci, par-là. Nous sommes en train de visiter les prisons, nous sommes en train de constater ces cas. C'est un problème très sérieux. Donc, dans le Nord, Kivu et l'Ituri.
Monsieur Angelo Kavotirak, nous vous disons merci.
C'est plutôt nous qui vous remercions.
Le rapporteur de la société civile Ville de Beni s'entretenait avec Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.